Ce que je vous propose, c'est donc de faire un focus sur la lecture que les situationnistes et pouvoirs ouvriers proposent de cette guerre des indépendantistes algériens, en sachant que les membres de l'internationale situationniste et de pouvoirs ouvriers appartiennent à cette génération qui fut trop jeune pour s'engager dans la résistance et trop âgée pour être envoyé combattre contre les Algériens. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur mon titre, l'engagement des situationnistes et de pouvoirs ouvriers contre la guerre en Algérie demeure théorique, ils ne combattent pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est la position à partir de laquelle ils s'expriment. Ces deux groupes d'intellectuels se situent tout d'abord en marge du champ politique. Ils développent une pensée critique du marxisme-léninisme et défendent une révolution qui repose sur les conseils ouvriers. Ils se situent également en marge du champ intellectuel. Ils ne sont pas intégrés aux institutions universitaires, contrairement à Vidal-Naquet. Ils ont un discours très critique vis-à-vis donc des positions dominantes des intellectuels dits académiques. Et donc, à partir de leur position de marge, je vous propose donc d'interroger la lecture qu'ils font d'une part de la situation coloniale et d'autre part la lecture qu'ils font de l'actualité algérienne à partir de novembre 1954. De voir les formes prises par leur engagement en soutien aux combattants algériens et donc essayer de voir en quoi ça peut nous donner du grain à moudre pour nourrir à la fois l'histoire de cette guerre et l'histoire des mémoires de cette guerre. Je vous propose de voir cela en trois points. Voyons tout d'abord donc les formes de leur combat en soutien aux Algériens. Pour présenter rapidement les situationnistes, ils proviennent d'un premier groupe qui s'appelle l'Internationale lettriste, qui est fondée par Guy Debord et quelques camarades en décembre 1952 en région parisienne. C'est un groupe embryonnaire qui n'a d'international que son nom, et à partir de ce groupe naîtra l'Internationale situationniste, qui est plus authentiquement internationale, et qui est fondée en Italie en juillet 1957, et c'est un groupe qui durera jusqu'en 1972. Donc vous voyez que de 1952 à 1972, l'histoire de ces artistes et de ces intellectuels a pour toile de fond ce qu'on appelle les événements d'Algérie, qui sont à la fois si proches et si lointains. Et donc, dans le discours des internationaux lettristes, il y a dès l'origine un discours anticolonialiste qu'on identifie dans les deux revues qu'il rédige, la revue internationale lettriste puis la revue Potlatch. Dès 1953, on trouve une dénonciation des ségrégations coloniales. Et cette dénonciation n'est pas purement théorique, puisque dans les rangs lettristes, il y a plusieurs Algériens dont on sait qu'ils font des allers et retours entre la métropole et les départements algériens. Et il y a notamment une figure, Mohamed Daou, dont on sait peu de choses, mais on sait qu'il a une activité artistique, qu'il peint, qu'il expose. Et il a aussi, donc, dans le quartier Mabillon, dans lequel ils évoluent, donc qui est à la lisière de Saint-Germain-des-Prés, il a une réputation de brute, il est le lettriste qui va facilement au coup de poing contre les opposants au mouvement. Et il s'avère que Mohamed Daou est originaire d'Orléansville. Et donc, quand le séisme d'Orléansville frappe donc cette ville d'Algérie qui est située entre Oran et Alger, ils sont assez bien placés pour analyser cette situation. C'est une ville donc, qui a été rebaptisée comme telle en 1845 par les autorités françaises, qui se situe en zone sismique, et donc un séisme dramatique frappe la ville le 9 septembre 1954. Et donc les lettristes s'emparent de ce drame pour rédiger un article intitulé ironiquement « Les colonies les plus solides, trois petits points ». Et donc il s'agit de jouer sur le sens littéral et le sens politique de cet adjectif « solide ». Et donc il dénonce tout d'abord le traitement médiatique de cet événement. Et ici, donc, je confronte une citation tirée de cet article et des photogrammes tirés des actualités françaises qui, vous le voyez, en effet, montrent avant tout les populations, les colons européens, les populations pieds noirs. Et voilà ce qu'ils disent. Les actualités françaises, plus en verve que jamais, ont célébré l'événement par un petit film qui montre uniquement des Européens, leurs cercueils, leurs crucifix, leurs prêtres, leurs évêques, burlesques, tendant à faire voir que l'Algérie est dans son ensemble une région de peuplement français, de religion catholique et de niveau de vie élevé quand la terre n'y tremble pas. Dans cet article, ce qui me semble intéressant aussi dans leur critique de la politique coloniale, c'est leur analyse de l'urbanisme colonial, qui fait aussi partie donc de leur réflexion, enfin leur réflexion sur l'urbanisme, et ils montrent que finalement cet urbanisme colonial scelle dans le béton la ségrégation entre colons et indigènes. Ils écrivent donc qu'il convient de combattre résolument le projet officiel de reconstruction des logements indigènes en dehors de la ville, sur l'emplacement déblayé de laquelle s'élèverait plus tard une nouvelle cité exclusivement européenne. Qu'est-ce qui est intéressant également dans leur analyse de la situation coloniale ? Eh bien, c'est une analyse qui est ancrée dans l'idéologie marxiste. En avril 1953, les lettristes algériens publient un manifeste. Ne serait-ce que ce titre de manifeste du groupe algérien, c'est une manière de reconnaître qu'il y a une nationalité algérienne. Et cela a déjà du sens en soi. Dans ce manifeste, ils encouragent la résistance, du moins ils encouragent à ne pas renoncer, voire à être révolutionnaires. Ils dénoncent l'oppression en général, ils parlent de société de flics, l'exploitation capitaliste, évidemment, et l'impasse d'une société qui reposerait sur le salariat. Il parle de caractère éminemment régressif de tout travail salarié. Ce manifeste est signé par trois lettristes algériens. On retrouve donc Mohamed Daou, Cheikh Ben Dine et Haït Jaffer. Au-delà de la dénonciation de la politique coloniale, ils appellent à une révolution par-delà les nationalismes. On le voit en particulier dans un texte qui s'intitule « Note pour un appel à l'Orient », donc qui est publié en juillet 1954. Ils expliquent que les peuples arabes ont à dépasser les clivages nationalistes pour mener une révolution sociale internationale. Donc, quelque part, il se situe dans la filiation de la conférence de Zimmerwald en 1915, cet appel donc, des Français et des Allemands à lutter ensemble contre le militarisme et contre le nationalisme. On est dans cette même filiation. Nous sommes en 1954, 2 ans après le putsch de Nasser. Il dénonce également une Arabie saoudite acquise aux intérêts américains et donc ils appellent à dépasser ces clivages nationalistes. À partir donc des attentats du 1er novembre 1954, les lettristes puis les situationnistes prennent de nouveau leurs plumes pour venir en soutien aux indépendantistes. On le voit donc à travers plusieurs interventions. Tout d'abord, cet article, l'effet Lagasse partout, qui est assez précoce, février 1955. Finalement, l'état d'urgence n'a pas encore été voté, il sera voté que le 31 mars. Maurice Papon n'est pas encore préfet de police, ce sera seulement en 1958. Dès février 1955, Potlatch, donc la revue de l'International Lettriste, dénonce la paranoïa du gouvernement français, en tout cas c'est comme ça qu'il la présente, qui multiplie la surveillance et les actes de répression à l'encontre des travailleurs algériens en France qui sont accusés de financer l'insurrection algérienne. s'empare notamment de ce fait d'actualité. Hein. Deux ouvriers originaires de Batna devaient quitter l'usine parisienne qui les employait après qu'on les eut accusés de financer les rebelles en campagne par des mandats qu'ils expédiaient dans leur pays. Deuxième article qui évoque cette situation de guerre, c'est l'article de novembre 1955, intitulé « Politique », qui me semble intéressant dans la mesure où, justement, il parle de la guerre d'Algérie. Nous sommes en novembre 1955. Il ne parle pas d'opération de pacification, de maintien de l'ordre, évidemment. Il voit que cette guerre d'Algérie pourrait s'étendre à toute l'Afrique du Nord, en évoquant donc les opérations militaires qui sont lancées par l'armée de libération nationale marocaine à partir d'octobre 1955, notamment dans les montagnes du Rif. Et voilà, ils entrevoient une généralisation de l'insurrection à toute l'Afrique du Nord, ce qui ne serait pas pour leur déplaire. En mai 1957, dans un article, les débats de ce temps, ils font référence à la répression d'Algérie. Nous sommes en effet dans ce moment de grande répression d'Algérie, du moins c'est comme ça justement que la bataille d'Alger a été transmise dans la mémoire algérienne et non pas française. Encore une fois, ils sont assez alertes sur l'actualité algérienne. Donc, nous avons des prises de position précoces et engagées des lettristes en soutien donc aux indépendantistes algériens. Toutefois, je tiens donc à éviter l'effet de focale. La diffusion de leurs écrits demeure limitée puisque, par exemple, Potlatch, qui est publié donc à partir de 1954, son premier numéro est diffusé seulement à 50 exemplaires. Et le dernier numéro sera diffusé à un nombre entre 400 et 500 exemplaires. Et on estime que pour International Lettrice, c'est seulement quelques dizaines. Donc, un impact qui est quand même évidemment très, très limité. Est-ce que, avec la fondation de l'International Situationniste, donc en juillet 1957, il y a un impact plus grand, et surtout, est-ce que les modalités de l'engagement des situationnistes changent par rapport à la période précédente, qui était la période lettriste? Ce qui est intéressant, c'est le mode d'expression qui est spécifique au mouvement situationniste, qui est un mouvement artistique natif, c'est fondé par des artistes et qui s'exprime via des œuvres d'art. Et c'est le cas en particulier en 1957, quand Guy Debord fait un travail commun avec son ami peintre danois Asger Jorn pour publier une brochure, mais une brochure, c'est un livre d'art en réalité, en 1957, qui s'appelle « Fin de Copenhague ». Dans « Fin de Copenhague », Asger Jorn et Guy Debord mettent en œuvre un des principes fondateurs de l'expression critique des situationnistes, qui est le détournement. Il s'agit ici d'associer des sources documentaires de nature différente. Ici, donc, vous voyez un soldat français réprimé un Algérien. Ce slogan, donc « Vive l'Algérie libre », qui a été peint par Jorn. Et ce petit aparté que vous voyez en haut, qui est emprunté à un magazine probablement, et qui dit 10 minutes après, l'émotion étant dissipée, on buvait le champagne. Cette manière de juxtaposer des documents et des phrases qui a priori n'ont rien à voir, finalement donne un nouveau sens. Et dans cette juxtaposition, on voit l'allusion à un drame qui reste très lointain pour les contemporains et qui suscite des mobilisations qui sont beaucoup trop timorées à leur goût. Donc ça, c'est un exemple de prise de position, donc via une expression artistique. Deuxième exemple, c'est un extrait de la revue internationale situationniste, le numéro 2, qui est publié en décembre 1958, où, dans un article qui n'a rien à voir, il y a donc cette photographie d'une jeune fille sous-titrée « Indépendance de l'Algérie ». Donc, de nouveau, nous sommes en décembre 1958, donc après la crise du 13 mai. Et sous ce slogan qui vient légender la photo, il y a un extrait du poème d'Éluard qui est dédié à Violette Nozière. Violette Nozière, je ne sais pas si vous l'avez en tête, cette jeune femme parricide qui suscite un très grand élan de solidarité, en particulier de la part des surréalistes, qui sont les pères... au nid des situationnistes, mais depuis 1953, André Breton milite pour la réhabilitation de Violette Nozière, qui a fait des années de prison, et pour lui, Violette Nozière est le symbole du carcan bourgeois, et donc un symbole d'émancipation, et il y a sans doute un parallèle à faire avec l'émancipation du peuple algérien qui cherche lui aussi, hein, selon les termes du poème d'Éluard, à se libérer de l'affreux nœud de serpent des liens du sang. Mais un engagement qui reste relativement effacé et qui peut poser la question de savoir si les situationnistes craignent la censure. C'est une hypothèse qui n'est pas forcément à retenir, puisque les situationnistes, en tout cas le couple donc de fondateurs Guy Debord et Michel Bernstein, s'engagent en 1960 auprès des intellectuels insoumis en signant donc le manifeste des 121 que François Doss a évoqué précédemment. Cette signature de cette déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie se produit dans le cadre d'un rapprochement qui existe depuis 1958 entre les situationnistes et pouvoir ouvrier. Pouvoir ouvrier, qui existait sous le nom de socialisme ou barbarie, avait été fondé en 1949 par Cornelius Castoriadis et Claude Lefort. Cette organisation à la fois politique et intellectuelle s'engage de manière très, très intense dans le soutien aux indépendantistes algériens. C'est en particulier une cause qui est défendue très, très intimement par Jean-François Lyotard et Daniel Blanchard. En boitant le pas à pouvoir ouvrier, Guy Debord et Michel Bernstein demandent à faire partie de ces 121. Et c'est assez étonnant, étant donné les positions très critiques que les situationnistes ont toujours eues à l'égard des intellectuels bourgeois, on l'a vu précédemment. On voit dans la correspondance de Guy Debord une très grande impatience à ce que sa signature soit rendue publique. Et donc, il intègre les rangs de ces 121 intellectuels qui se positionnent contre la guerre d'Algérie. Il écrit, par exemple, le 1er octobre 1960, qu'il est soulagé d'avoir enfin reçu l'invitation à la signer jeudi soir, arrivant de Londres. Et il scrute le journal Le Monde pour voir si sa signature apparaît bien. Et il se fait également gloire d'être visé par la censure qui est prononcée par les signataires, une censure qui bannit tous les signataires de la radio-télévision à partir du 28 septembre 1960. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette volte-face finalement ? Qu'est-ce qui pousse Debord et son épouse Michèle Bernstein à rallier ces intellectuels de gauche, qui n'est pas forcément très très laudatif dans la bouche de Debord ? Eh bien, il écrit dans sa correspondance privée, les intellectuels de gauche d'ici, c'est-à-dire, donc Patrick Straram est au Canada, les intellectuels de gauche d'ici, c'est-à-dire ces gens qui ont été les pires ennemis de toute recherche révolutionnaire, les Sartre, Nadeau, Mascolo et surréalistes réchauffés, sont venus pour la première fois à se placer nettement et courageusement dans une position de pur scandale. Et donc, qu'est-ce qui a peut-être invité Debord à signer cette déclaration? C'est, outre la signature de Sartre, Nadeau, Mascolo, celle de André Breton, qui est à la fois admiré et détesté chez Debord, mais aussi la signature d'Henri Lefebvre, qui a pu également influencer son choix. Mais surtout, je crois que cette signature et cet engagement de Debord-Bernstein correspond à ce que Marcel Péju écrit dans Les Temps modernes, où il oppose une gauche insoumise à cette gauche respectueuse. Et Debord, dans ce moment de 1960, hein, en plein procès donc, du réseau Janson, sent la nécessité de rallier ces intellectuels dont il honore de manière inédite le courage. Sa signature entraîne sa convocation par la police judiciaire, qu'il relate dans sa correspondance privée. Donc une enquête est menée. Voilà, désormais, il a rallié le camp des intellectuels de gauche, alors que Jean-François Le Guettard, lui, a été plus loin en étant un porteur de valise. Dernier point, ce qui me semble intéressant également, c'est de montrer que dans les représentations des situationnistes, l'Algérie n'est pas seulement une terre d'oppression, une terre de souffrance, mais vraiment, elle incarne un espoir révolutionnaire qui ne s'éteindra qu'avec le coup d'État de Boumédienne le 19 juin 1965. Et de ce point de vue-là, ils rejoignent les analyses de pouvoir ouvrier. L'Algérie est un foyer de la Révolution mondiale, à la fois sur le terrain français et sur le terrain algérien. Sur le terrain français, la crise du printemps 1958, et non pas 68, est pour eux un véritable espoir de renversement du pouvoir, de révolution, dans ce contexte de ce qu'ils appellent une mobilisation antifasciste et dans laquelle ils se rapprochent de pouvoir ouvrier. Pour Guy Debord, la prise du pouvoir par le général de Gaulle est qualifiée de dictature et les manifestations auxquelles il participe montrent qu'on est dans une situation insurrectionnelle. Et dans le numéro 1 de la revue internationale situationniste qui est publié en juin 1958, il publie un texte qui s'intitule « Une guerre civile en France », qui est une allusion directe à l'analyse que Marx a faite de la Commune à chaud en publiant la guerre civile en France en 1871. Et donc, il y a des correspondances ici entre l'analyse de Marx à propos de la Commune et celle de la situation insurrectionnelle de juillet 1958, sur laquelle donc je ne peux pas m'étendre. Deuxième espoir révolutionnaire, évidemment, ils ont les yeux braqués sur l'Algérie. Avec pouvoir ouvrier, pour eux, le combat mené par les Algériens doit aller bien au-delà de la simple indépendance, mais c'est vraiment, l'Algérie est un terrain pour eux de développement d'un processus révolutionnaire autogestionnaire, donc sur un modèle alternatif à ce qui s'est fait jusqu'ici en URSS, en Chine, à Cuba, etc. Ils mettent beaucoup d'espoir sur les épaules des combattants du FLN. Pour contribuer à cette révolution autogestionnaire, ils mettent beaucoup de sueur et de larmes dans la publication d'une petite brochure qui a beaucoup de prix à leurs yeux, que vous avez ici au centre déployée donc au milieu des 12 numéros de la revue internationale situationniste avec leur belle couverture irisée. Cette brochure donc adresse à tous les révolutionnaires d'Algérie et de tous les pays. Ils prennent beaucoup de soin à la faire imprimer, la faire traduire en 4 langues. Et aussi à la faire diffuser à partir de l'Algérie. Donc il y a tout un stratagème au niveau de la diffusion de cette petite brochure qui doit appeler à une révolution au-delà du terrain simplement algérien. Donc en conclusion, les prises de position des lettristes, de pouvoir ouvrier et des situationnistes en faveur donc de l'indépendance de l'Algérie, ont profondément politisé et radicalisé leurs membres. On l'a dit, Jean-François Lyotard s'engage dans le réseau Janson, Debord et Bernstein s'engagent auprès d'intellectuels qui jusque-là avaient été vilipendés. Ce qui est important à retenir, c'est que l'Algérie prend une place majeure dans leur réflexion, pas seulement dans la perspective de l'indépendance, mais vraiment parce qu'elle nourrit leur espoir révolutionnaire et qu'elle doit être ce point de départ. Voilà, merci.